Il est l'heure de ComCom, votre rendez-vous avec la communauté de communes du pays de Florac et du Haut-Tarn. Comme tous les jeudis à 10h sur Radio Barthas.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Élodie Liva-Bariol et de Lucie Mersadier. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Donc vous êtes toutes les deux salariées de la communauté de communes du pays de Florac et du Haut-Tarn. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un peu qu'est-ce qui se cache derrière ce nom communauté de communes ?
Oui, alors une communauté de communes, pour utiliser des termes juridiques, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Et donc ça existe ça depuis plus de 120 ans, puisque au début il y avait des syndicats pour gérer en commun certains services. Et puis après ça a été un peu renforcé par plusieurs lois en 92, en 99. Et en décembre 2010, la réforme territoriale fixe comme objectif en fait de simplifier et d'achever la carte de l'intercommunalité en France pour éviter l'émiettement. C'est-à-dire qu'à ce jour, il existe plus de 2000 intercos, je crois. Donc l'objectif, c'est d'en réduire le nombre pour augmenter le périmètre d'intervention, enfin augmenter le nombre de communes dans les communautés de communes. Donc la communauté de communes, c'est un instrument en fait pour l'organisation des territoires qui permet pour les communes de se regrouper pour mener des projets.
Des projets communs, mener des projets ensemble.
Voilà, ou se regrouper pour gérer certains services comme par exemple les ordures ménagères, l'assainissement.
D'accord.
Et à terme, enfin, l'optique, c'est de faire des économies d'échelle. Plutôt que chacun gère certains services dans son coin, voilà, ça permet d'optimiser.
Alors à l'échelle de Florac, enfin, cette communauté de communes du pays de Florac et du Haut-Tarn, elle regroupe quelles communes ?
Alors la communauté de communes regroupe les communes de Bédouès, Cocurès, Les Bondons, Hispaniac et Florac. Elle a été créée en 2005 et pour vous dire un peu ses compétences, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a des compétences obligatoires que doivent avoir les communautés de communes et ça réside dans le développement économique essentiellement. Ensuite il y a des compétences optionnelles et des compétences facultatives. Donc au titre du développement économique, nous avons la réalisation des zones d'activité par exemple, la création d'une maison de service, l'accompagnement des offices du tourisme, l'aide à leur fonctionnement, la collecte et le traitement des ordures ménagères. Et ensuite, notre communauté de communes a choisi de faire une OPH, par exemple. C'est des aides à la rénovation de logements. On a des projets, c'est la communauté de communes qui gère l'aérodrome qui est sur le cloc. Qui est sur le COS, l'aérodrome Florac-Saint-Enimi. Je vous en passe. Et il y a aussi le contrat éducatif local, dont vous parlera Lucie un peu tout à l'heure. Donc on intervient sur beaucoup de domaines et très variés.
D'accord, ça fait beaucoup de projets, beaucoup de choses à mener, ça. Mais du coup, moi j'aime bien savoir au niveau des sous, comment ça se passe. Les communes mettent des ressources en commun pour mener ces projets-là ?
Non, en fait, on a notre fiscalité propre. C'est-à-dire que quand un contribuable paye sa taxe d'habitation, eh bien, il y a une part qui va à la commune et il y a une part qui vient à la communauté de communes. Donc, le conseil communautaire vote des taux d'imposition.
D'accord.
Voilà, donc on prélève l'impôt et après, on a les aides de l'État à travers la dotation globale de fonctionnement. Et ces aides sont en voie de diminution au vu de l'effort national qui doit être fait pour réduire les dépenses publiques. Donc l'État, quelque part, se désengage. Il aide de moins en moins financièrement les collectivités à faire leur mission.
Est-ce que tu peux nous parler d'un exemple un peu plus concret ?
Alors, je ne sais pas en quelle année c'était, parce que moi, ça fait un peu moins d'un an que je suis là, mais la communauté de communes a créé une zone d'activité économique qui est à côté de la zone artisanale de Florac, à Saint-Julien-du-Gourd. Et donc, en fait, c'est un projet qui a donc un intérêt intercommunal, puisqu'il va avoir des répercussions sur tout le territoire économiquement. Et donc, en fait, ça a consisté en l'achat d'un terrain, son aménagement, sa constitution en lot. Et donc, actuellement, nous sommes en train de vendre des lots à des personnes qui veulent s'installer pour installer un commerce. Il y a une enseigne alimentaire aussi qui va s'installer normalement, si tout va bien, en cours d'année. Voilà.
D'accord. Donc la communauté de communes, il y a des élus qui composent le conseil communautaire, ils prennent les décisions, mais après ces décisions, il faut les mettre en place, il faut les appliquer, et donc c'est là que vous intervenez en tant que salarié.
Voilà. Donc le rôle de l'administration, que ce soit une commune, une interco, enfin dans n'importe quelle collectivité territoriale, c'est d'assister les élus pour la définition des orientations stratégiques. Donc, en fait, on est un conseil auprès des élus quand ils veulent mettre en place, par exemple, une action, une politique, pour leur dire voilà comment, sous quelle forme ça peut s'appliquer. Donc voilà, un conseil pour l'orientation. Ensuite, il y a le pilotage des différents projets en lien avec tous nos partenaires. On assure également le fonctionnement de l'Assemblée délibérante parce que quand les élus se réunissent, ils ne font pas ça tout seuls. Il y a une grosse préparation en amont et ensuite aussi. Et puis après, tout simplement, la mise en œuvre administrative des décisions qui sont prises. Pour le pilotage des projets, donc, c'est vrai qu'on est très souvent en lien avec les services de la préfecture, donc de la sous-préfecture pour le cas de Florac, qui nous accompagne et qui nous conseille sur nombreux de nos projets. Ensuite, pour certains projets, il y a aussi l'éducation nationale, la DDCSPP. On est en lien étroit avec les services du Trésor public, et j'y reviendrai après. Le fonctionnement de l'Assemblée délibérante, là, c'est l'organisation, comme je vous le disais, des réunions du Conseil, des commissions, parce que les élus se regroupent aussi en commissions un peu plus restreintes. Et là, bon, on établit un ordre du jour avec le bureau. Donc, c'est la présidente de la communauté des communes en présence des quatre autres vice-présidents qui représentent les quatre autres communes de la communauté de communes. Et donc, un ordre du jour est défini. Cet ordre du jour, il doit être envoyé 5 jours ouvrés avant la date du conseil à tous les conseillers communautaires. Et donc après, on prépare le conseil, on fait des projets de délibération, un document de présentation en séance pour un peu éclairer les conseillers communautaires dans les décisions qu'ils ont à prendre. Et donc on tient un registre des délibérations, on tient où chaque délibération, enfin à la fin de chaque conseil, il y a un registre des signatures.
Et que nous, on peut consulter ?
Bien sûr, tout ça, c'est public. Mmh. Une fois que c'est exécutoire. Donc, exécutoire, ça veut dire qu'une fois que le conseil est terminé, en fait, on envoie toutes ces délibérations à la sous-préfecture, qui, elle, le transmet après à la préfecture. Donc, ça va au contrôle de légalité. Donc, l'État, en fait, contrôle toutes les décisions qui sont prises par les collectivités territoriales. Alors, les contrôles du point de vue juridique, voir si ça respecte les lois, les décrets. Donc, voilà.
Et donc, et vous êtes combien de salariés à la communauté de communes ?
On est 5 en tout.
5,
voilà. Quand j'ai parlé d'organiser la mise en œuvre des délibérations, ça passe par différents canaux parce que une collectivité, elle ne peut rien faire si elle n'a pas de budget. Donc, nous assistons les élus dans la préparation du budget, dans son vote. Donc là, il y a des délais aussi à respecter et dans l'exécution du budget en lui-même, c'est-à-dire en cours d'année, on procède à des dépenses quand il y a des priorités qui ont été définies sur tel ou tel projet. Quand on le met en œuvre, après, ça se traduit par des factures. Et donc là, c'est vrai que c'est un travail qui est peut-être méconnu, un travail de l'ombre, mais qui prend beaucoup de temps parce que c'est du contrôle, c'est des imputations comptables. Donc concrètement, quand on a une facture, on établit ce qu'on appelle un mandat administratif. Et il y a un grand principe qui régit la comptabilité publique, parce que c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les impôts des contribuables que nous percevons, qui est dépensé à travers les projets de l'Interco. Et donc, du coup, il y a un grand principe qui est la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Ça, c'est un principe qui date de 1962. Et en fait, qui veut dire que la présidente atteste que la prestation a bien été réalisée par le prestataire, que du coup, on demande au comptable de payer. Donc, elle fait un mandat, c'est un papier qui est signé. Et ensuite, on l'envoie à la Direction générale des finances publiques, donc l'ancien trésor public, qui lui regarde la facture, vérifie qu'on a bien certifié que le service avait été fait. Et sur la base de ces contrôles-là, voir si on a bien les crédits pour pouvoir payer la facture, il va effectuer le virement. Donc, si j'en viens à autant de détails, c'est...
C'est pour nous rassurer que...
Alors, pour rassurer, comme bien... quoi l'argent public, la dépense de l'argent public est très encadrée, de même aussi que l'encaissement des recettes. Mais aussi, voilà, quand un bénéficiaire atteint un règlement, par exemple, de la part d'une mairie ou d'une administration en général, il trouve que c'est long. Mais en fait, voilà, c'est toute cette procédure-là qui se déroule. Et quand on nous appelle, nous, ils ne comprennent pas forcément les personnes quand on leur dit « appelez le Trésor public pour voir s'ils ont fait le paiement » parce que nous, on leur a donné toutes les informations et maintenant, la balle n'est plus dans notre camp.
Vous n'avez pas forcément le beau rôle, en fait,
non.
Avec les usagers
non.
qui doivent vous faire porter sur les épaules tout le poids de l'administration,
oui.
C'est ça ?
Ouais. Voilà, donc bon, il y a le côté budgétaire et comptable. Ensuite, on fait également une veille juridique. De façon à s'assurer que tous les actes qui sont pris par le président ou tous les actes qui peuvent émaner de la collectivité respectent le cadre juridique qui nous entoure. Et ce cadre juridique, il est très particulier par rapport à ce que je vous ai dit, notamment sur les deniers publics, il y a toujours une spécificité de l'administration.
Une petite pause musicale ?
On y va pour Dactylo Rock ?
Oui ! Ouais !
Alors attention les gars, 1, 2, 3... 4. Monsieur le directeur, sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes le plus vénard. Vous avez les tigri-tigri-tigri, dactylo-ra, tigri-tigri-tigri. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Benoula,
viva Benoula.
Elles travaillent le jour et la nuit, et même parfois tous les samedis. Les dactylo-ra,
tigri-tigri-tigri,
dactylo-ra, tigri-tigri-tigri. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Benoula,
viva Benoula.
Dans tous les bureaux de bras en haut, les dactylos tapent go go et leurs patrons leur disent go go. Yeah, elles sont douces et très jolies, ce sont les plus belles filles de Paris. Les dactylos rock, digri digri digri, dactylos rock, digri digri digri. Pour faire leur bouquet, les directeurs passent la tête. Elles valent bien ça,
elles valent bien ça.
Dans tous les bureaux de bras en haut, on chantera très bientôt le rock des dactylos. Go! Yeah! Que le directeur sans même le savoir, de tous les hommes, vous êtes la plus belle à vous. Vous avez les digri-digri-digri dactylos au rap. Digri-digri-digri-digri. Elles sont les plus parfaites, elles chantent en tapant ta tête. Viva Benoula,
viva Benoula.
Et voilà, c'était donc Dactylo Rock d'Eddie Mitchell, une chanson toute spécialement choisie pour les secrétaires de la communauté de communes. Élodie, je te redonne la parole.
Oui, donc je poursuis mon propos pour pouvoir donc mettre en œuvre les délibérations, les décisions qui sont prises par les élus. Ça passe, comme vous l'avez dit, par le personnel. Et c'est vrai qu'en tant qu'administration, il y a beaucoup de... Comme dans toutes les organisations professionnelles, il y a des choses à suivre managérialement. Donc, on procède au recrutement des personnes quand on a besoin. Ensuite, les personnes sont stagiérisées pendant un an. Et si tout se passe bien, après, elles sont titularisées. Donc tout ça, ça se suit. Y a des entretiens réguliers qui sont faits. On fait également les entretiens professionnels. Donc c'est des entretiens annuels où on vérifie que les objectifs qui ont été fixés l'année d'avant ont pu être réalisés ou pas d'ailleurs. S'ils ne l'ont pas été, on analyse les causes et on fixe les objectifs pour la période suivante. Ensuite, on a des réunions d'équipe hebdomadaires que j'ai mises en place, ça fait à peu près un an, ça marche bien, il y a une bonne cohésion de groupe. Et sinon,
et ça fait déjà pas mal, hein,
oui,
tout ça.
Il y a les évolutions de carrière aussi à surveiller parce que donc il y a des cadres d'emploi, des grades, des échelons, des évolutions, enfin.
Le fonctionnariat.
Voilà, tout ce qui est ressources humaines, c'est géré par l'équipe administrative. Et donc on a un organigramme. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 5 personnes à la communauté de communes. Nous sommes 3 dans les locaux du siège, donc on va dire que c'est la partie vraiment purement administrative de la communauté de communes. Et ensuite, nous avons la maison de l'emploi et de la cohésion sociale qui est située place Paul Comte, donc malheureusement pas dans les mêmes locaux que nous, où là nous avons 2 animatrices, Anne et Cindy, qui interviennent aussi notamment pour donner l'actualité de la maison de l'emploi et puis pour faire paraître les offres d'emploi toutes les semaines, je crois. Et donc du coup, il y a moi qui suis directrice, une autre collègue que je profite pour saluer, Élodie, qui est un peu timide et qui n'a pas souhaité être là cet après-midi, mais je désespère pas un jour qu'elle vienne.
On l'attend.
Voilà, donc Élodie est référente administrative et comptable. Et donc Lucie, qui est référente association et développement. Et je vais du coup lui laisser la parole pour qu'elle développe un peu plus ses missions.
Alors Lucie.
Alors du coup je suis référente association et développement pour la communauté de communes. Donc en fait mon poste c'est beaucoup de suivi de projets et d'animation des dossiers. Voilà, j'ai plusieurs dossiers. Donc concrètement, mon travail, c'est tout ce qui est organiser les réunions, préparer les réunions, tout ce qui est convention avec les différents partenaires qu'on a pour mettre en place nos projets, et aussi tout ce qui est la mise en œuvre de projets du début jusqu'à la fin. Donc faire un diagnostic, comment on va s'y prendre, définir les objectifs, réunir les personnes autour de la table pour réaliser ce projet, jusque la réalisation concrète du projet et enfin une évaluation. Donc voilà, mon boulot concrètement, c'est sur tous ces projets, faire tout ça.
Alors justement, concrètement, quel projet par exemple en ce moment, sur quel projet tu travailles ?
Alors là, sur ce projet, c'est plutôt la partie association. Dans la partie association, j'ai plusieurs projets. Donc là, c'est en particulier le PEDT, qui est le projet éducatif territorial. Il y a eu la réforme des rythmes scolaires qui doit être mise en place pour la rentrée 2014-2015. Et pour cela, nous, la communauté de communes a décidé de mettre en place un projet éducatif territorial pour organiser cette réforme en fait, sur tout le territoire, sur toutes les écoles du territoire. Donc l'école de Florac, d'Ispagnac, de Bédouès et aussi de Bar des Cévennes, vu qu'on travaille beaucoup en relation avec la communauté de communes Cévenol-Tarnon-Mimente. Donc aussi les inclure en fait dans ce projet. Donc voilà, par exemple pour ce projet, j'ai tout d'abord écrit la démarche de quelle manière nous allons nous y prendre pour mettre en place ce PEDT, avec un planning pour bien statuer, vu que là on est obligé à la rentrée que ça soit opérationnel. Donc il fallait vraiment bien suivre ce planning. Organiser des réunions pour voir, pour mettre tout le monde autour de la table, pour qu'il y ait une concertation autour de ce projet et autant des différents acteurs éducatifs, donc les élus, les enseignants, les parents d'élèves et aussi le personnel communal, donc les ATSEM. Voilà, nous avons essayé de regrouper toutes ces personnes avec des réunions dans les communes pour savoir qu'est-ce que ces personnes veulent, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans ce PEDT, comment on va organiser les animations. Voilà, donc là, je vais faire un travail de synthèse, regrouper tout ça, et après, concrètement, comment on va mettre en place ces animations pendant le temps périscolaire. Donc le temps périscolaire, c'est le temps après l'école qu'il y a. D'une école à l'autre, en fait, c'est différent. Elles ont organisé un peu leur temps différemment, donc je ne vais pas dire tous les horaires, mais voilà, c'est la fin de journée avant 4h30.
Avant le ramassage scolaire.
C'est ça.
D'accord.
Voilà. Et là, en fait, en parallèle à ce regroupement de données que j'ai reçues dans les communes, on voudrait faire un appel à proposition d'animation pendant le temps périscolaire. Donc cet appel à proposition est destiné aux associations, aux bénévoles, à tous les intervenants du territoire qui pourraient intervenir pendant ce temps périscolaire. Et comme ça, avec toutes les propositions qu'on aura, on verra comment on peut organiser ces différentes animations sur les écoles, déroulement sur les écoles et d'animation. Et comme ça, on va mutualiser les moyens, autant techniques que financiers. Voilà.
Il y a une échéance pour participer à ce projet ?
Ça sera pour le 31 janvier. Donc là,
ce mois.
Voilà.
Ah, ben donc c'est rapide.
Donc là, on devrait partir d'ici le début de la semaine prochaine, donc par un mailing, sur le site internet de la communauté de communes. Il y aura toutes les informations.
Dans la presse.
Et je pense qu'il y aura sûrement une affiche dans les communes et les écoles où il y aura les informations pour pouvoir répondre à cet appel à projet, à proposition.
D'accord.
Voilà.
Merci Elodie.
Merci.
Merci d'être venue, de vos explications.
J'aurais aimé juste terminer pour pouvoir du coup vous dire un peu dans quelle direction on va au niveau de notre administration. Donc pour cette année, on aimerait moderniser notre action. Donc ça va passer notamment par la dématérialisation de nos échanges, donc avec les services de l'État, les services de la préfecture, les services du Trésor public. C'est-à-dire plutôt que de s'envoyer du papier après chaque conseil communautaire, après chaque mandatement, ben, tout ça se fera par des flux et donc il n'y aura plus de support papier. Et aussi ce que j'aimerais développer, c'est une plus grande coopération entre les administrations donc de la communauté de communes et de chaque commune membre. Parce que pour l'instant, on entretient de bonnes relations, mais je pense que ça serait pas mal d'animer un peu un réseau...
Renforcer les liens.
Des administratifs, oui, c'est ça. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues pour cette émission.
Merci. Merci à vous.
Et une bonne année 2014.
Bonne année.
Bonne année.
Bonne continuation.
Comme se termine, vous pouvez retrouver les informations de la communauté de communes du Pays de Florac et du Haut-Tarn sur www.pays-florac.fr. Rendez-vous tous les jeudis à 10h pour votre émission Comcom sur Radio Bartas sur le 107 ou sur internet www.radiobartas.net.